Bonjour, bienvenue au cercle de lecture de Confluence. Je vous rappelle que ce cercle se réunit une fois par mois pour échanger autour d'un livre. Confluence est une association qui a été créée en 90 par Maurice Petit, qui concentre ses activités sur la création, l'organisation et la diffusion de manifestations littéraires. Un des temps forts de la vie de Confluence, eh bien, c'est en ce moment à Montauban, puisque c'est le festival littéraire Lettres d'automne, dont la 23e édition se déroule actuellement jusqu'à dimanche prochain. Cette édition est consacrée à Albert Camus, dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance. Je vous signale que vous pouvez trouver dans les librairies et chez la plupart des commerçants un programme papier qui est de 54 pages. C'est donc vous dire la richesse et la diversité de ces lettres d'automne. Vous le trouverez aussi, le programme complet, sur le site de Confluence, www.confluence.org. Aujourd'hui, nous allons échanger nos impressions sur le livre « Pietra Viva » de Léonore de Recondo. C'est un auteur qui a été reçu récemment à la librairie La Femme Renard. Léonore de Recondo est née à Paris en 76. Elle est violoniste baroque. « Pietra Viva » est son troisième livre. Elle a publié en 2010 « La grâce des signes »,« La grâce du signe blanc », pardon, qui est aux éditions « Le temps qu'il fait ». Elle a publié ensuite en 2011 « Rêve oublié » chez Sabine Vespizer, qui est disponible en format de poche, en point seuil. Et c'est chez cette même éditrice, Sabine Vespizer, qu'elle publie, donc lors de cette présente rentrée littéraire, « Pietra Viva ». Un mot sur Sabine Vespizer, qui est un éditeur que j'ai suivi comme libraire depuis sa création en 2001. C'est un éditeur que je trouve exigeant et courageux. Exigeant parce que elle a une exigence du texte et courageuse parce que elle n'hésite pas à faire connaître des auteurs nouveaux, comme en particulier Léonore de Recondo. Elle a publié 120 livres en 12 ans, 13 ans, vous voyez que c'est pas énorme, c'est une dizaine de livres par an, dont ceux de Michel Leeb, de Vincent Borel, d'André Bucher, Diane Meur, Duong Thu Hong, Edna O'Brien. Elle publie donc un nombre de livres limité chaque année, de façon à bien suivre ses auteurs. Et je signale que pour cette rentrée littéraire, donc 2013, elle n'a publié qu'un seul coup de cœur, que ce livre de Pietra Viva, celui dont nous allons débattre aujourd'hui. C'est un livre qui a déjà reçu un bel accueil de la critique et qui figure parmi les romans préférés des libraires. Alors, autour de la table aujourd'hui, j'ai trois membres du Cercle de lecture de Confluence. Je vous rappelle, l'idée, c'est que le Cercle de lecture s'est déjà réuni et a échangé sur ce livre et certains de ses membres viennent ensuite vous en parler au cours de cette émission qui est donc diffusée sur CFM. Nous avons autour de la table...
Jeannette.
Bonjour Jeannette.
Lisa.
Bonjour Lisa.
Jean.
Eh bien bonjour à tous les trois. Jeannette, vous voulez peut-être nous résumer un peu le livre, nous dire un peu de quoi... Il s'agit dans cette histoire Pietra Viva.
Alors, c'est assez facile à résumer parce que finalement, c'est un livre qui a un schéma narratif très simple. Il prend le Michel-Ange au moment où il se rend à Carrare pour faire le choix de blocs de marbre afin de d'ériger le tombeau que vient de lui commander Jules II pour lui-même. Il va se passer assez peu de choses. On va avoir un suspense finalement simple. Michel-Ange, avant de partir, a constaté la mort d'un moine qu'il aimait, d'une façon tout à fait platonique, et il est un peu bouleversé par cette mort. Il n'a pas tellement bouleversé qu'il n'a pas osé demander ce qui avait provoqué cette mort subite de cet être si jeune. Et pendant tout le livre, on va se demander qu'est-ce qui a provoqué cette mort. Bon, voilà le suspense. L'autre intérêt du livre, outre bien sûr tout ce qu'on apprend sur Michel-Ange, sur les carriers, sur cette époque de la Renaissance italienne, c'est la relation de Michel-Ange avec un petit garçon de 6 ans qui va lui faire revivre sa propre enfance. Voilà à peu près résumé ce qu'il y a dans ce livre, qui, malgré la simplicité de l'intrigue, ne peut pas se quitter. Enfin, on est sous le charme quand même de ce livre qui est écrit d'une façon très fluide et très simple. Oui.
Alors, on peut préciser que ça se passe, je sais pas si vous l'avez signalé, mais ça se passe donc en 1505.
Hein, oui, j'ai pas dit la date.
Donc,
oui.
Ça se passe en 1505. ça va durer pendant 6 mois. Donc, Michel-Ange est parti à Carrare, et c'est à Carrare qu'il va se trouver, donc, pendant 6 mois pour choisir les marbres pour ériger, donc, le tombeau du pape Jules II. Hein. Michel-Ange est au sommet un peu de sa gloire, c'est un génie incontesté, mais qui est, on peut dire, qu'il est un peu arrogant, qu'il est sans doute, qui se protège du monde, qui veut pas être perméable aux émotions, et on va voir que tout ça va un peu se briser au cours du au cours du roman. Hein.
Oui. Sur l'écueil de ce petit garçon de 6 ans,
voilà.
Si on peut dire.
Parce qu'il y a deux personnages, effectivement. Il y a deux personnages peut-être dont vous voulez nous présenter.
Non, je voudrais d'abord donner mon opinion générale sur ce roman et dire que globalement, je l'ai bien apprécié. Son entreprise est tout à fait audacieuse, familièrement, on dirait culottée, puisque l'auteur choisit de s'inspirer de quelques épisodes de la vie de Michel-Ange, ce grand génie de la Renaissance italienne, cet artiste mythique, une sorte de monument culturel. Donc, elle s'inspire de quelques épisodes de sa vie et elle y ajoute une histoire romanesque qu'elle invente pour nous montrer la face cachée de l'artiste. Ses tourments, ses souffrances affectives, et en particulier le traumatisme de la mort de sa mère quand il avait 6 ans. Ça, c'est un fait réel. L'auteur y ajoute un deuxième traumatisme qu'elle a inventé, qui est la mort d'Andrea, un jeune moine dont il était secrètement amoureux. Donc, par son thème principal, ce récit est beau, est émouvant, et à mon avis, il veut montrer l'homme, l'humain, la pietra viva, la pierre vivante, qui se cache au fond de l'artiste de génie. Et une chose qui est intéressante à ajouter, c'est lorsque l'auteur a été invité à La Femme Renard, elle a précisé que pour écrire ce livre, ce qui l'a beaucoup motivé, c'était le fait que son père était lui-même un sculpteur. Donc on se rend compte qu'il y a une part autobiographique dans le choix de ce récit.
Oui, son père était sculpteur et qu'elle a même passé des étés en Italie et en particulier dans la région de Carrare. Alors, on peut peut-être revenir sur le titre Pietra Viva,
oui,
Jean.
Mais à propos de son père sculpteur, oui. Je pense que d'une certaine façon, elle reproduit dans ce livre le travail de son père, c'est-à-dire que elle fait apparaître à partir de ce bloc qui était un peu rébarbatif que représentait Michel-Ange, elle fait apparaître l'homme, enfin un humain. Alors que il avait une apparence de quelqu'un de très renfrogné, désagréable, etc. Et finalement, comme le sculpteur qui fait petit à petit, qui dégage ce qu'il y a de plus intéressant dans un bloc de pierre, elle fait apparaître la dimension humaine de Michel-Ange. Alors à propos du titre, elle choisit, il me semble, à dessein, un titre italien, hein, Pietra Viva, elle a pas traduit Pierre Vive, ça aurait été joli en français aussi, hein, Pierre Vive, mais elle a volontairement choisi Pietra Viva. Alors je crois pour plusieurs raisons. D'abord parce que elle a d'une certaine façon la nostalgie, je crois, de la période qu'elle a passée en Italie auprès de son père, donc sculpteur près de Carrare. Parce que aussi, peut-être d'une autre façon, comme elle est musicienne, dans les morceaux de musique, on met des indications en italien, hein, souvent. Donc Pietra Viva, d'une certaine façon, ça évoque aussi peut-être cette dimension de son travail, puisqu'elle est une musicienne reconnue. Hein. Pietra Viva, en italien, dans le langage précis des carriers et des sculpteurs, ça désigne quelque chose de bien précis, hein, c'est un terme technique, ça désigne la pierre qui a été totalement dégagée de ses impuretés et qui est prête à être travaillée par le sculpteur. Donc c'est un terme, d'abord un terme technique. Bien sûr, on peut aussi trouver que les deux termes s'opposent, hein. C'est la figure de style qu'on appelle oxymore, c'est-à-dire deux termes qui apparemment sont incompatibles. Une pierre, c'est vraiment un bloc qui résiste, et la vie, c'est le contraire, bon, de la pierre. Et là, curieusement, les deux termes sont associés. Alors, ce que on a déjà dit, mais je voudrais y insister, puisque moi aussi j'ai assisté à la rencontre avec l'auteur à La Femme Renard. Cette jeune femme a sans doute l'intrépidité de la jeunesse, hein, et elle n'a pas hésité à présenter un personnage qui est vraiment un monument de l'histoire de l'art. Et il y avait deux possibilités par rapport à ce qu'on peut dire sur Michel-Ange, ou bien employer les grandes orgues hein, et les termes dithyrambiques, ou bien ce qu'elle a choisi, l'extrême simplicité de l'expression. Donc il y a une espèce de familiarité avec ce personnage qui par ailleurs a une telle ampleur. Voilà, donc j'ai trouvé intéressant qu'elle essaie justement de reproduire ce travail du sculpteur.
Oui, parce qu'on peut dire que c'est un... Je ne crois pas qu'on puisse le qualifier de roman historique, si vous voulez, parce que c'est pas une grande saga historique, et c'est un moment d'un personnage historique qui est là, et... Pour moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est la façon dont Michel-Ange, qui était donc un peu ce bloc fermé au départ, va un peu s'ouvrir au contact justement des habitants de Carrare et de la vie qu'il va avoir à Carrare. Et dans ces habitants de Carrare, il y a deux personnages qui sont assez importants, deux personnages importants du livre, des personnages secondaires, on peut dire, mais importants. Il y a un petit garçon qui a 6 ans, et puis il y a un homme qui est un peu fou puisqu'il se prend pour un cheval. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu de ces personnages
des deux personnages, si oui. Vous voulez. Mais comment dire, avant ça, j'avais envie d'ajouter que je trouve intéressant que Michel-Ange, qui pour nous aujourd'hui est le génie intouchable, enfin, etc., n'était pas forcément vu de cette manière-là par les personnes de son temps. Jules II d'abord, qui lui commande, considère qu'il est un génie, mais qui quand même le considère comme un artisan à son service, un artisan un peu meilleur qu'un autre. Michel-Ange lui-même, qui se sent très à l'aise parmi les ouvriers carriers et qui partage leur vie avec simplicité. Autrement, pour ce qui est de Cavallino, il paraît que, puisque justement l'auteur a vécu à Carrare, ce Cavallino a existé. Et oui. En même temps, c'est très méditerranéen aussi de donner des surnoms à tout le monde. Donc Cavallino, c'est quelqu'un qui se prend pour un cheval, qui est amoureux d'une jument blanche et qui a un espèce de don quand même pour... au-delà de la figure des personnes, aller chercher le petit animal qui pourrait être leur totem. Enfin, un autre des personnages, c'est Topolino, la petite souris qui est un carrier qui est le père de non, Michele. Qui n'est pas le père de Michele. Enfin, un autre des carriers qui est petite souris parce qu'il sait se faufiler dans les blocs de marbre pour trouver le bon passage sans se faire écraser. Mais je crois que Lisa... avait été presque amoureuse de Cavallino, alors
oui,
je la laisse en parler.
Ce personnage de Cavallino, donc qui est un personnage que Michelangelo rencontre dans le village de Carrare, c'est un simple d'esprit qui se prend pour un cheval hein, et qui est amoureux d'une jument blanche. Je vais vous lire un petit passage... qui est à peu près au milieu du roman. Et le sculpteur donc rencontre Cavallino et Cavallino lui demande de venir au pré pour voir sa jument. Viens, tu vas voir comme elle est belle. Ils marchent ensemble jusqu'au pré à flanc de colline. Ils n'échangent aucun mot. Chacun se réjouissant de la présence de l'autre, de la lumière. Chacun à l'affût des rayons tièdes du matin. À l'approche du pré, Cavallino accélère le pas. Il trotte presque et Michel-Ange le suit. Arrivé à la barrière de bois, Cavallino pousse un long hennissement. À l'horizon de l'étendue verte surgit en cadence une petite silhouette blanche. Regarde comme elle foule le ciel. Et soudain la jument est là, frémissant encore de sa course à travers champs. Cavallino saute par-dessus la barrière et l'accueille par une ruade. Il enlace son encolure, puis lui glisse quelques mots à l'oreille. Michel-Angelo, qui n'a pas osé bouger, voit les cils recourbés de l'animal se rejoindre et tressaillir de plaisir. Que lui as-tu dit ? Sans desserrer son étreinte, Cavallino lui répond tout bas. Quelle est mon étoile filante qui vient chaque jour percuter et consumer mon cœur? Quelle est mon immaculée, ma toute blanche? Les voir si amoureusement embrassés, alors qu'il est debout derrière la barrière de bois, le ramène à sa propre solitude et à sa laideur qui le fait se sentir si seul. Alors, ce passage permet au lecteur de bien se rendre compte du style de l'auteur, puisque vous avez pu vous rendre compte que c'est toujours écrit au présent, et tout le récit est écrit au présent. C'est écrit également avec des phrases courtes, avec des dialogues qui sont toujours simples, et l'ensemble de l'ouvrage est découpé en 39 chapitres très courts, avec des petits titres qui résument bien le contenu. Cette écriture, je trouve qu'elle, moi, elle m'a plu au début. Ensuite, un petit peu moins, parce que je l'ai trouvée un petit peu lassante. Mais elle m'a donné l'impression d'une littérature enfantine. J'avais l'impression de lire un petit peu un livre comme pour les enfants, où tout est écrit au présent, avec des petits chapitres. Et sans doute que l'auteur a voulu contraster avec la grandeur de l'artiste et de donner une impression de simplicité, hein, de faire que cet homme soit proche de nous. Bon, moi j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est vrai que vers la fin du roman, ça m'a un petit peu lassé. J'ai trouvé ça un petit peu simpliste, hein. Mais c'est vrai que ça rend le livre agréable et facile à lire.
Je vous rappelle que vous êtes sur CFM et que vous écoutez une émission qui vous est proposée par le Cercle de Lecture de Confluence. Aujourd'hui, nous échangeons autour d'un livre qui s'appelle Pietra Viva de Léonore de Recondo, qui a été publié aux éditions Sabine Vespizer. Jean, peut-être que vous voulez sur le style intervenir.
Bon, Léonore de Recondo, elle travaille beaucoup sur la mémoire, hein, puisque le livre précédent s'intitulait Rêves oubliés, où elle racontait l'histoire de sa famille qui était partie d'Espagne précipitamment, etc., qui s'est réfugiée en France. Et là, je pense que ce livre, c'est aussi une sorte de retour sur sa jeunesse, une jeunesse qu'elle a l'air d'idéaliser quand elle était en Italie. Donc, ayant suivi sa famille et son père, donc sculpteur. Et c'est vrai qu'il y a des sortes de, enfin, on pourrait dire clin d'œil à sa jeunesse, parce que Topolino, par exemple, en italien, c'est Mickey. Hein, c'est la petite souris. Bon, l'image qu'elle fait aussi, enfin, le portrait qu'elle fait de l'enfant, il y a une sorte, donc, c'est vrai, de nostalgie peut-être de l'enfance. Il y a aussi ces poèmes qui peuvent paraître un petit peu naïfs, hein, notamment celui qui est à la fin du livre et qui me paraissent évidemment pas du tout de la même qualité que les poèmes que Michel-Ange lui-même a écrits, hein, qui sont d'une très grande beauté et qui sont publiés. On peut trouver ces poèmes dans la collection Poésie Gallimard. Hein. Mais je crois que c'était un parti pris de sa part, hein, de essayer de retrouver cette enfance, ce moment qui a sans doute été pour elle un moment de bonheur dans cette Italie où elle donc suivait son père sculpteur. Et elle a bien, donc ça a été dit déjà, mais elle nous l'a bien précisé quand elle est venue, ce personnage de Cavallino, c'est un personnage qui existait réellement dans la petite ville donc où elle vivait.
Oui. Alors parmi les personnages qui sont importants, il y a celui de Cavallino dont on vient de parler, il y en a un autre aussi qui est un petit garçon de 6 ans qui s'appelle Michele et qui vient de perdre lui sa mère. Hein, alors que Michel-Ange à 6 ans aussi avait perdu lui-même sa mère et que ça l'avait sans doute un peu... Enfin, il ne souhaitait pas du moins en parler, il restait prisonnier un peu de ses émotions. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce petit garçon, de Michele?
Peut-être. Ce petit garçon, certains des membres du groupe Confluence l'ont trouvé un peu surfait, l'ont trouvé un peu artificiel. Personnellement, j'ai été touchée, de même que j'ai été touchée par la simplicité du style. J'avais envie de défendre, je trouvais que Lisa était dure avec l'auteur. Donc alors ce petit garçon Michel perd sa maman qui meurt après un accouchement. On touche du doigt, là, d'ailleurs, à travers le livre, on voit la vie de ces femmes qui reviennent là-dessus, qui disent, voilà, nous nous connaissons, nous savons que nous allons perdre des enfants, nous savons que nous allons vivre avec cette douleur, enfin bon. Et au moment de l'enterrement, auquel Michel-Ange assiste parce qu'il connaît le père qui est carrier, il a une espèce de réflexe terrible. Quand cet enfant s'approche de lui, il le repousse avec une vigueur, enfin une brutalité extrême. Et ça ne rebute pas ce petit qui va sans arrêt venir le retrouver, lui prendre la main. Enfin, et c'est vrai qu'à travers ce petit qui a perdu sa maman à 6 ans, Michel-Ange progressivement, à travers des rêves, à travers tous les sens sont évoqués dans ce livre. C'est une des qualités du livre d'être d'une assez grande sensualité. Donc à travers des odeurs, à travers des chansons, il va retrouver progressivement le souvenir de la mère qu'il a perdue, voilà. De la nourrice qu'il a consolé, enfin qu'il a élevé, qu'il a nourri, qu'il a consolé. Voilà, moi j'ai personnellement trouvé assez touchant et assez émouvant le rapport de cet homme brut de décoffrage et de cet enfant à qui il finit par offrir un petit coffret de façon à ce que, comme lui-même l'avait fait pour sa mère et à contrario, enfin, lorsque la mère de Michel-Ange était morte, l'auteur raconte qu'il avait enfoui un petit coffret de bois dans le jardin avec lequel il enfouissait tous ses souvenirs de sa mère. Et à cet enfant, à la fin du récit, il va offrir aussi un coffret, mais justement au contraire, pour que ce coffret lui permette de se souvenir.
Alors ce petit garçon, effectivement, c'est un des, vous l'avez mentionné, mais c'est un peu à cause de lui et grâce à lui que Michel-Ange va justement s'ouvrir un peu aux autres, lâcher prise, accepter de, peut-être, on pourrait dire, ne plus maîtriser autant la pierre et le monde comme il le faisait auparavant et s'ouvrir au processus de création. Est-ce que vous voulez parler un peu du processus, vous l'avez évoqué déjà, mais du processus de création un peu, parce que c'est un livre, il y a une métaphore sur la création, sur les exigences de la création dans ce livre.
Oui, comme je disais là tout à l'heure, on assiste aux différentes étapes de la façon, enfin, aux différents moyens qu'utilise le sculpteur pour faire apparaître dans un bloc de pierre brut une âme finalement, quelque chose de vivant. Et de ce point de vue-là, Michel-Ange maîtrise parfaitement les choses. Il a par exemple le coup d'œil pour choisir le bon bloc de marbre, pour repérer le défaut qui ne conviendra pas, etc. Et là, c'est intéressant aussi de ce point de vue-là, hein, de voir comment se fait le travail des carriers, comment se fait ce choix du beau marbre.
Oui, parce que la vie des carriers et le travail lui-même dans sa précision quotidienne est définie de façon très précise par l'auteur.
Oui, il y a même les termes techniques, enfin, voilà. En italien, pour dire le bloc qu'on veut pas, c'est rifiuti, etc. Hein. Il y a à chaque fois un effort, mais sans que ce soit lourd ou pesant, voilà. Sans que ce soit vraiment une fiche de technique.
Hein. On parle du marbre, mais c'est tout de même léger.
Oui, voilà, exactement. Et je crois, justement, cette légèreté, elle l'a recherchée, je crois, par contraste à tout ce qui pourrait alourdir son propos. Et cette légèreté, on la voit dans l'écriture. Elle a essayé de varier aussi, hein, et là peut-être qu'on pourrait retrouver son goût pour la musique, hein, son talent musical. Elle a essayé de, par exemple, d'introduire à l'intérieur du récit de temps en temps des réflexions qui sont dans la conscience du personnage, hein, qui apparaissent en italique. Il y a aussi des lettres que Michel-Ange écrit, qui n'envoie pas forcément, mais qu'il écrit. Et puis il y a de temps en temps donc cette ouverture poétique.
Est-ce que vous avez un extrait du livre que vous
Il y a aussi certaines anecdotes qui sont intéressantes par rapport à l'histoire de Michel-Ange lui-même et de sa sculpture. Il y a par exemple l'histoire du nez du David, qui est la sculpture vraiment très très célèbre de Michel-Ange, qui se trouve à Florence. C'était il y a quelques années, dans la même ville, à Florence, où il y a une place bien plus grande que celle-ci. On m'avait commandé une sculpture, un David gigantesque, haut comme 3 hommes. Une fois terminé, on l'a apporté jusqu'à cette grande place. Quand la statue y a été installée, j'avais encore quelques retouches à faire. J'étais en haut de l'échafaudage quand le gonfalonier, le chef de la ville, est passé Il a regardé la sculpture et m'a demandé de descendre pour me donner son avis. Il trouvait le nez trop gros. Je vais te dire ce que j'ai fait ensuite. Je suis remonté à l'échafaudage avec mon ciseau. En haut, tout en faisant semblant de reprendre le nez, je soufflais de la poussière de marbre pour qu'il croie que j'en enlevais. Après un bon moment, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et tu sais ce qu'il m'a répondu ? C'est idiot, alors que je n'avais rien retouché. Il me plaît davantage. Vous lui avez donné vie. Donc on voit que Michel-Ange est aussi capable d'humour et de jouer avec les ignorants. Ou ce qu'il appelle les idiots.
Au niveau de la création aussi, j'ai trouvé intéressant le passage où il élabore ce qu'il va faire du tombeau commandé par Jules II, dont finalement il ne finira que le Moïse, mais il parle des esclaves. Et alors justement, lui qui a tellement su polir le marbre, bon, on évoque la Pietà qui est à Saint-Pierre, à Rome, il va décider de justement de montrer que la vie sort de la matière brute et commencer à évoquer l'idée qu'il va ne pas polir justement la pierre et juste dégrossir ce qui va en sortir.
Oui.
Je ne sais pas si j'ai le temps, moi, de lire passage qui montre que l'histoire est traitée avec légèreté, mais que ça fait plaisir de retrouver certains personnages à table. Alors, c'est un repas, Michel-Ange a 17 ans, qui est pris à la cour de Lorenzo de Médicis. L'hôte est là, bien entendu, mais aussi ses fils, des peintres, des musiciens et des penseurs. Tous ceux que Lorenzo juge comme étant l'élite culturelle de Florence. Michelangelo a tout juste 17 ans. Le plus souvent, il se tait et s'abreuve du savoir des autres. Pico della Mirandola est beau, élégant, parle une vingtaine de langues. Ce soir-là, il s'exprime dans un idiome que personne ne comprend, mais cela ne l'empêche pas de disserter tout son sou. Lorenzo lui répond dans une langue tout aussi incompréhensible, et ainsi, les échanges fusent entre les convives sans qu'aucun ne soit intelligible. Voilà, je trouve que c'est voilà, ça me fait plaisir moi d'être à table avec Lorenzo et Pico della Mirandola.
Ah oui, bien sûr.
Mais c'est intéressant justement qu'il y a à chaque fois des petites ouvertures comme ça, mais elle n'insiste pas particulièrement.
Hein. De même qu'elle raconte aussi le bûcher des vanités à Florence et Botticelli qui vient brûler ses nus.
Oui. Mais c'est chaque fois une petite ouverture.
Deux paragraphes.
À propos de justement des esclaves, enfin de la façon dont Michel-Ange sculpte, et il y a une phrase intéressante où Léonore de Recondo dit les personnages sont déjà dans la pierre, à dégager. Donc. Et il y a effectivement dans les esclaves, il y en a qui ne sont, enfin il y a des sculptures qui ne sont pas totalement terminées, mais finalement c'est peut-être les plus belles parce qu'on a l'impression que le personnage se dégage du bloc brut.
Voilà.
Est-ce que vous avez été un peu convaincu? Est-ce que vous avez un maintenant à la suite de cet échange, est-ce que vous avez un avis un peu plus favorable, plus ouvert sur le livre?
Ah mais moi j'ai trouvé le livre intéressant au niveau du thème et le fait de s'attaquer à un monument ne me dérange absolument pas. Mais c'est vrai qu'au niveau du style, j'ai quelques réserves. Également sur sa manière de tenir le lecteur en haleine par un certain suspense, bon, qui est tout à fait intéressant au niveau de la narration. Et le suspense provient du fait, on en a parlé, qu'il ignore la mort, les causes de la mort de Andrea, et pendant tout le roman, il va essayer de savoir pourquoi il est mort. Et quand on l'apprend finalement, on est un petit peu déçu de l'explication et on n'est pas trop sûr que c'est la vérité. Donc ça tombe un petit peu.
Mais peut-être que c'est pas le sujet principal.
Ouais. Oui, peut-être. Voilà. Oui. Mais c'est bon. Il y a un procédé narratif qui est intéressant en suspense. Oui. C'est bon. Moi, j'étais un petit peu déçu de la manière dont ça se termine.
Bon, moi, au départ, si vous voulez, la mort de Andrea, le fait que Michelangelo est assez, il ne s'attend pas du tout à ça, et donc il voit arriver, puisque il travaille sur les dissections des corps, etc., pour mieux les connaître, etc. Et il voit arriver quelqu'un, on lui présente un corps mort qui est là, et il s'avère que c'est Andrea, si vous voulez. Donc il est assez stupéfait, et c'est ce qui va être la cause de son départ précipité pour Carrare. Mmh. Il va partir à Carrare, donc. Donc, elle a trouvé ça, si vous voulez, au départ, comme raison de le faire partir, et ensuite, bien évidemment, il est parti de façon tellement précipitée qu'il n'a pas pu savoir ce qui s'était passé non plus. Donc il cherche à le savoir ensuite avec des lettres qu'il écrira ou qu'il n'écrira, enfin qu'il enverra.
Mais ça marche pour le lecteur.
Qu'on n'enverra pas.
Ça alors,
moi j'ai trouvé pour le lecteur ça marche assez
savoir,
bien.
Oui.
Ceci
oui.
étant, si vous voulez, faut pas penser que c'est un polar. Hein, faut du pas tout, penser que tout. C'est une énigme, que tout est basé là-dessus. Non, c'est un espèce de fil rouge qui est là autour du livre, mais autour duquel il y a beaucoup de choses qui sont évoquées et qui sont intéressantes. Moi je trouve qu'ils sont intéressantes.
Moi j'ai aimé le personnage de Chiara, la femme de Topolino. Oui. Qui est chaleureuse, au milieu de toutes ses maternités, enfin, elle doit avoir 4 ou 5 enfants qui sont vivants, mais on apprend qu'elle a dû en avoir 3 ou 4 autres qui sont morts, est chaleureuse et prend le temps de chanter.
Oui.
Et non seulement prend le temps de chanter, mais transforme un petit peu les chansons qu'elle chante de façon à les rendre plus éducatrices de sa propre vie.
Toujours de bonne humeur. Il y a plein de touches intéressantes. Je crois qu'il y a, dans ce livre, il y a un hommage à la création, bien sûr, et il y a aussi de ce livre transparaît aussi un peu le goût de la vie, quoi. Il y a une certaine joie de vivre qui est là, qui est importante.
Et puis, comme je disais, la nostalgie de l'Italie.
Voilà.
Hein, enfin,
oui.
En tout cas, une Italie qu'elle idéalise, je crois, par rapport à l'époque où elle a vécu. Alors, elle est très jeune, puisqu'on a dit elle est née en 76. Peut-être qu'on peut considérer, puisqu'elle est musicienne, qu'elle fait ses gammes d'une certaine façon, hein, et que de livre en livre, peut-être que son talent va se consolider, s'affirmer. Mais en tout cas, moi, ce que je voudrais souligner aussi, c'est l'intérêt de la rencontre avec l'auteur. Elle a, au cours de cette rencontre, éclairé certains aspects du livre d'une manière vraiment très très intéressante. Et donc, je crois que faire venir des auteurs comme ça, c'est toujours très positif.
Oui. Et ça l'est d'autant plus. Je crois que la rencontre est d'autant plus fructueuse que vous avez lu le livre avant.
Voilà, bien sûr. Ah. Oui.
Alors, il y a quelquefois des gens qui ne l'ont pas lu, mais la rencontre avec l'auteur peut les inciter ensuite à lire le livre. Mais je crois que c'est intéressant dans les deux cas que vous ayez lu le livre ou que vous ne l'ayez pas lu. On trouve toujours quelque chose dans une rencontre.
Hein. Mais je crois, Jean, que tu avais lu le Rêves oubliés, que tu avais trouvé excellent.
Oui.
Et si elle est capable du style de Rêves oubliés, ça veut dire que le style qu'elle utilise, le style simple de Pietraviva, n'est pas une faute, mais un parti pris.
Oui, je pense que ça fait partie de ses choix. Hein, de ses choix et apparemment elle maîtrise très très bien les choses.
Alors ce qu'il y a aussi c'est que donc Sabine Vespizer a publié son second roman qui est Rêves oubliés dont vous venez de parler et lorsqu'elle a reçu Pietraviva, elle a été selon ses propres termes totalement éblouie et c'est pour ça qu'elle a décidé aussi de ne publier que ce livre-là à la rentrée de façon à pouvoir permettre que toute sa campagne de presse, toute son activité d'éditeur soit centrée autour de ce livre. Elle reprend des parutions maintenant en novembre et décembre, mais c'est le seul livre qui a été publié à la rentrée du mois d'août. Quoi. Et elle estime, elle, qu'elle a affaire là à un auteur important et elle va donc elle va le suivre. Et là, c'est un éditeur qui suit ses auteurs. Si vous voulez.
Je voulais ajouter autre chose. Michel-Ange, c'est apparemment un personnage qui intéresse les écrivains. Et moi, j'ai lu un livre aussi qui parle de Michel-Ange et qui m'avait beaucoup intéressé, de Mathias Sénard. Parle-leur de bataille de rois et d'éléphants. Enfin, je sais pas si je le dis dans le bon ordre. Où il imagine, là, Michel-Ange invité par le sultan à Istanbul pour construire un pont sur le Bosphore. Et il paraît qu'il y a un dessin de Michel-Ange qui consiste en un projet de pont. Bien sûr, Michel-Ange n'est pas allé à Istanbul, mais le roman m'avait beaucoup intéressé.
Oui. Alors Mathieu Sénard était venu aussi.
Voilà.
Je ne sais pas si vous l'avez rencontré.
Oui.
Il était venu ici. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voudriez ajouter sur ce livre?
Ma foi, j'ai un peu fait le tour de l'intérêt qu'il m'avait procuré.
Oui. Très bien. Et vous?
Ah ben moi je conseille la lecture de ce livre,
c'est
tout à fait intéressant.
Parfait, donc nous sommes unanimes à vous conseiller la lecture de ce livre. Je vous rappelle que vous étiez en train d'écouter une émission qui vous est proposée par le Cercle de Lecture de Confluence, que nous avons parlé de Pietraviva, qui est un livre de Léonore de Recondo, qui est publié chez Sabine Vespizer. Je vous rappelle aussi que les Lettres d'automne, ce festival littéraire qui est consacré cette année à Albert Camus, se poursuit jusqu'à dimanche. Vous trouvez toutes les informations sur le site www.confluence.org de l'association Confluence. Il y a jusqu'à dimanche des soirées encore fort intéressantes qui vous sont proposées. Ne les ratez pas. Il n'est pas encore trop tard pour suivre toutes ces manifestations qui vous sont proposées avec des invités de très grande qualité. Merci à tous les trois et à bientôt au mois prochain. Au revoir.